Pays Midi Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance du patrimoine du Pays Midi Quercy, en particulier la terre dans le bâti. Philippe Pieux aujourd'hui pour nous parler, a priori, de la terre crue dans le bâti sur notre territoire, Midi Quercy. Mais bon, vous venez là au titre du CAUE. Alors il faut quand même dire un mot sur le conseil en architecture, en urbanisme et en environnement.
Oui.
C'est une association qui a une fonction de service public.
Voilà, alors effectivement, c'est une association donc, de droit privé, mais avec une structure définie par l'État. C'est une structure qui est mise en place par le Conseil général et qui a des missions de service public, des missions de conseil, d'information, de sensibilisation aux qualités du cadre de vie, à toutes les qualités du cadre de vie.
Ça veut dire quoi? Vous conseillez à la fois les institutions pour instruire les permis de construire, par exemple. Vous avez votre nez à y mettre?
Alors ça nous arrive parce qu'on peut être saisi par n'importe quelle collectivité ou service de l'État pour tout projet. Hein, heureusement, ça n'est pas systématique, mais ça arrive effectivement. Notre rôle, il est quand même beaucoup plus en amont. C'est un rôle de conseil et on reçoit, pour ce qui est par exemple des permis de construire, on reçoit plutôt les personnes bien avant, lorsqu'ils sont à l'état de leurs avant-projets, pour les aider d'abord à répondre à leurs questions et puis les orienter pour que leur projet rentre bien dans les canons de ce qui est attendu.
Et alors, en particulier, ce qu'on appelle le volet paysager. Un édifice s'inscrit dans l'environnement, qu'il soit bâti ou qu'il soit naturel?
Alors d'abord, c'est normalement une obligation légale de remplir un volet paysager lorsqu'on dépose un permis de construire, mais il y a aussi des volets paysagers sur les plans locaux d'urbanisme. Enfin, cette question du paysage a été mise en place dès 1994. Bon, le but étant de faire réfléchir et de demander surtout à ce qu'on appelle le pétitionnaire du permis de construire, de dire comment il voit la relation que son projet de bâtiment entretient non seulement avec sa parcelle, parce que souvent on ne se pose même pas cette question-là, malheureusement, mais aussi avec les parcelles voisines, voir le grand paysage, et de dire, j'ai choisi ce type de solution, ce type d'implantation, pour m'harmoniser avec mon voisin, avec la colline en face, etc., m'harmoniser avec les constructions traditionnelles ou du lotissement dans lequel je suis inscrit.
En fait, vous avez une large contribution à fournir en termes de services publics, parce que bon, là, on parle d'architecture contemporaine dans la phase permis de construire, mais vous êtes aussi un petit peu les porteurs du patrimoine architectural en matière de bâti construit. On s'adresse souvent à vous pour dater, etc. Et donc, de ce point de vue-là, vous êtes référent en matière d'histoire architecture. Alors, c'est un peu pour ça qu'on vous fait venir il s'agit de dater, d'identifier le bâti en terre crue en pays Midi Quercy. Je suppose que vous êtes très attentif à tout ce que décèle l'inventaire du patrimoine du pays.
Ah bien évidemment. Alors justement, nous sommes de toute façon, l'essentiel des chargés d'études du CAUE sont des architectes, urbanistes, mais nous sommes, on affirme toujours, des généralistes. Pour autant, on travaille, le CAUE existe depuis une trentaine d'années à peu près, on a toujours cherché à connaître le patrimoine, donc à faire, non seulement le connaître, mais le faire connaître et le faire prendre en compte. Simplement, il y avait déjà des démarches qui avaient été engagées par l'État, qu'on a fait connaître, auxquelles on n'a pas participé directement, mais qu'on a fait connaître, donc déjà des inventaires. Et on a la chance, dans le pays Midi Quercy, d'avoir un service approprié à ça, donc avec des historiens, des chercheurs qui font un inventaire, donc systématique, scientifique, et qui permettent d'avoir des données très précises là-dessus. Donc nous, on puise, en tant que généraliste et en tant que mission de service public, on puise justement dans ces données, dans ces connaissances, pour les faire partager à tous les gens qui sont candidats, et notamment à la restauration, puisque ce qui est intéressant, c'est de pouvoir fournir à quelqu'un des informations sur son patrimoine. Alors, il y a le patrimoine particulier de chacun, au sens de la valeur des fois un peu financière, mais il y a aussi la valeur de qualité des constructions et surtout le respect des systèmes constructifs, c'est-à-dire qu'il faut connaître de manière à ne pas arriver à des contre-performances en venant appliquer sur des vieilles constructions des méthodes de construction qui sont inadaptées, qui sont modernes, qu'on peut considérer comme modernes, mais inadaptées. Voilà. Et notre travail, il est aussi de vulgariser au maximum tout ça, toutes ces données.
Alors, ça veut dire que dans chacune des régions de la plaine limonaire, que ce soit Nègrepelisse, pour parler de la vallée de l'Aveyron, ouais, jusqu'à Montauban, à chaque fois, il y a eu des filières de fabrication de briques, des manières de mettre en œuvre le pisé, des fondations, des choses comme ça, qu'on retrouve simplement par l'observation.
Alors, c'est-à-dire que la connaissance de ce bâti, alors c'est un bâti entre guillemets qu'on appelle vernaculaire, hein, c'est-à-dire que on a du mal à identifier un maître d'œuvre, un architecte derrière ce bâti. En réalité, quand on rentre un peu plus dans la connaissance et qu'on dépasse l'image un peu spontané de ce bâti qui a l'air tout simple comme ça en apparence, on s'aperçoit que c'est un bâti qui appartient vraiment à l'architecture savante, avec des codes, avec des systèmes constructifs, des systèmes de composition. Et en revanche, notamment l'utilisation de la terre, qu'elle soit sous les formes, les trois formes générales qu'on connaît souvent, c'est-à-dire le torchis associé au colombage, que ce soit le pisé, c'est-à-dire qu'on tasse entre des branches, ou que ce soit ce qu'on appelle l'adobe, c'est-à-dire la brique de terre crue. Il y a des savoir-faire qui se sont élaborés, mais la particularité de la terre, et ça c'est une de ses grandes valeurs, malheureusement aujourd'hui on a du mal à faire valoir cette valeur, c'est que c'est un matériau de proximité, d'immédiate proximité. Aujourd'hui, seulement, on se pose cette question, vous parliez de question de filière. Et c'est vrai que quand on pense filière, on pense plutôt filière industrielle. C'est-à-dire comment on met en place. Bon, autant les briqueteries de terre cuite, qui sont finalement de la terre crue cuite, mais c'est pas toujours tout à fait. Souvent, il faut justement une brique de meilleure qualité, enfin, de certaines qualités pour faire de la brique cuite et d'une autre qualité pour faire de la brique crue. Et ces systèmes de production de terre cuite ont toujours, je dirais depuis presque les Romains, ont toujours eu un caractère industriel. Alors que la terre crue, on ne peut pas tout à fait dire ça, parce que encore une fois, le matériau est un matériau qu'on ne transporte en général pas, parce que la bonne terre est à proximité, et puis selon sa qualité, on va l'améliorer un peu, mais on va utiliser, je dirais presque la terre au fond du jardin, parce que c'est vrai surtout sur le bâti rural, mais c'est vrai aussi même sur... Alors, il y a toujours une dimension, il y a certainement eu une dimension, notamment dans les villes. Montauban, qui est une grande ville, a beaucoup construit en terre crue. Hein. Quand on rentre dans les îlots, on trouve bien sûr beaucoup de murs en terre crue. Et voilà, donc on a une grande proximité de ce matériau. Et je pense qu'aujourd'hui, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment ce matériau, qui a des qualités extraordinaires, qui sont recherchées aujourd'hui, bon, qui est un matériau sain, un matériau renouvelable, c'est un matériau qui a des qualités hygrométriques, qui a des qualités d'absorption des sons, et il a une rétention thermique extraordinaire. Enfin, donc, c'est un matériau qui a de très grosses qualités. Comment aujourd'hui, alors qu'il est à proximité, on l'utilise finalement si peu?
Stand, you wait and you wonder. You think maybe it's me and I'm being a fool. You start to believe it's a curse that you're under. And you're just a doll for a girl who is cruel with a pin. So let me out. Let me in and tell me how we can win. 'Cause I really wanna know now before I begin, oh, to let you go, to let you go. Silent defeat. You gotta be honest with me and be ruthless. Oh,
steady shifting uncomfortably there, and you see, and your skin. So let me out, or let me in, and tell me how we can win. 'Cause I really wanna know now, before I begin, Lord, to let you go.
Pieux, président du CAUE pour Pays Medicercy Mater sur CFM.
Vous parliez tout à l'heure d'avoir des données. C'est vrai qu'on a souvent pas des données écrites, sauf quelques fois quand même sur des bâtiments, notamment sur des bâtiments en centre-ville. On a des baux commerciaux, on va dire ça comme ça, sur des commandes de terre, de briques de terre. Mais la plupart du temps, donc on a du mal à dater, parce qu'on a construit en terre depuis très longtemps. Et bon, il y a des périodes où on arrive à dater. D'ailleurs, justement, le service de l'inventaire s'attache à cette interprétation datée des constructions. Mais on a du mal, effectivement, à définir vraiment les modes de mise en œuvre, parce qu'on les a perdus un peu. Donc, il faut les redécouvrir. Alors, ils sont souvent très simples. Hein, et on a heureusement des tentatives qui sont menées, notamment sur le pays Midi-Quercy, pour réactualiser ce matériau. Il y avait quand même des commandes très très claires, des contrats très clairs qui étaient souvent très succincts, mais qui finalement définissaient bien. Et puis des systèmes, les briques par exemple, que ce soit des briques en terre cuite ou des briques en terre crue, elles sont souvent le module qui permet de concevoir une maison. On compte en briques, en longueur de briques. Et donc ça donne aussi le côté. Par contre, puisque l'essentiel, une grosse partie du patrimoine en briques du secteur, enfin de ce secteur des plaines et vallées de l'Aveyron, c'est un patrimoine qui date du 19e siècle. Et là, autant le matériau, on peut dire que le matériau n'est pas vraiment industriel, puisqu'il est à proximité pour cette raison, mais à côté de ça, le déploiement de l'architecture du 19e siècle, lui, il est de caractère industriel, c'est-à-dire qu'il est très modulaire. Quand on regarde les maisons, il y a souvent, d'ailleurs, même quand on regarde les hangars, on a des hangars sur piliers, comme ça, on voit, ce sont des rythmes bien, bien calibrés, on retrouve toujours les mêmes proportions, les mêmes, et souvent les mêmes dimensions, donc on commandait un hangar de 3 travées, on commandait une maison de 3, 4 travées, etc. Donc il y avait une codification quand même très, très puissante.
C'était plutôt lié, ça, à ce que pouvait fournir la charpente, non?
Alors bien sûr, ça dépendait des techniques de construction, des gisements qui existaient aussi pour le bois, comme vous dites. Hein, bon, souvent, on a des charpentes en carolin, hein, souvent dans ces plaines, donc en peuplier finalement, qu'on n'utilise plus non plus aujourd'hui, alors qu'on pourrait faire de superbes charpentes avec un matériau. Un matériau qui a une grande solidité finalement, et donc tout ça donne très rapidement des solutions se sont imposées par la pratique. Mais quand on veut faire de la construction en terre aujourd'hui, souvent il faut remonter ses manches et puis y aller, quoi, hein, se faire ses briques ou tasser son pisé soi-même.
Philippe Pieux du CAUE. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment faire prendre conscience aux gens que la terre est un matériau moderne avec toutes les qualités que vous avez décrites en isolation phonique, en isolation thermique, en facilité de mise en œuvre, en durabilité, puisque finalement, à partir du moment où on peut renouveler un matériau et qu'on le fait pas venir de loin, c'est du développement durable. Bon, il faut le protéger quand même, hein. Faut un enduit de chaque côté.
Alors, il faut surtout protéger léger, comme on dit, bon, c'est trop connu, mais il faut un bon chapeau et des bonnes bottes, hein, pour un bâtiment en terre. C'est-à-dire qu'il faut, vraiment une toiture. D'ailleurs, c'est souvent, on a vu disparaître comme ça des fermes entières, tout simplement parce qu'elles étaient abandonnées, et puis quelques temps après, la toiture commence à avoir des gouttières, et puis les murs fondent. Bon, il faut du temps quand même, parce qu'il y a, quelquefois, ils résistent même très bien, même à la pluie, ça arrive à, on arrive à faire résister ces murs.
On a quelques ruines avec des arbres qui ont poussé à l'intérieur.
Ouais. Voilà, donc il faut isoler du sol, il faut des remontées d'humidité, il faut effectivement bien couvrir. Mais à part ça, ce sont des matériaux qui sont d'une solidité remarquable. C'est le matériau le plus utilisé à la surface du globe, hein. Et on a des vestiges qui remontent 4-5 siècles avant Jésus-Christ, qui sont encore debout, hein, donc ils sont
Dans des pays secs, quand même.
Alors, dans des pays plutôt secs, mais curieusement, c'est des pays qui reçoivent de temps en temps la pluie, mais ils ont quand même, ça a quand même traversé tous ces siècles. Pour autant, bon, il faut effectivement protéger. Puis, pour ce qui est des enduits, il est important de protéger. On le voit d'ailleurs dans les constructions si répandues dans notre secteur. Là, on protège surtout la partie ouest, quoi. Hein, les parties à la pluie, nord et ouest. Le reste souvent était laissé, pouvait être laissé brut. Après, bon, il y a des histoires de finition. Puis la terre a quand même très souvent aussi été amendée, c'est-à-dire on l'a quand même quand on a pu, on a mis un petit peu de chaux dans les parties les plus exposées. On rajoute du gravier pour assurer sa cohésion. Puis ça dépend encore une fois des techniques. Hein. Quand on veut faire du torchis, on a plutôt une argile très grasse et très pure. Par contre, quand on fait des briques ou du pisé, on a intérêt à avoir suffisamment de gravier dans les argiles.
Pays Midi Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Toujours avec Philippe Pieux du CAUE. Alors, ce matériau, la terre, vous nous avez dit tout à l'heure toutes les qualités qu'il avait. En fait, on ne comprend pas pourquoi ça ne se développe pas davantage. Il y a des obstacles à ça?
Alors, le principal obstacle, c'est qu'effectivement, on a abandonné cette matière, ce matériau, quand ont été mis en place les grands systèmes de distribution industrielle et les matériaux, on va dire, modernes.
La brique et le parpaing.
Voilà, la brique et le parpaing. Voilà, la brique creuse, la brique mécanique et le parpaing. Alors, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, il y a quand même des expériences qui ont été menées ces 20, 30 dernières années. Il y a quand même une ville nouvelle, pas très loin de Lyon, qui à l'île d'Abeau, qui a des quartiers entiers qui ont été réalisés dans ce matériau. Il y a des HLM sur la commune de Colomiers qui ont été réalisés avec des murs de terre. Donc il y a quand même une production et il y a des architectes qui se sont intéressés à ce matériau et qui s'intéressent aujourd'hui. Cela étant, c'est vrai que ça reste encore trop marginal. Souvent parce qu'on ne trouve pas, alors soit les concepteurs, parce que effectivement les architectes sont pris dans la production, je dirais classique, et on ne trouve pas non plus, où ils sont rares malheureusement, les artisans pour ça. Alors il y a une très forte demande sur la partie restauration, parce que comme vous l'avez dit, bon, on a un patrimoine dans lequel nous habitons dans le secteur et qui souvent ne trouve pas pour faire des réparations.
Ah oui, quelquefois une ouverture, on voit des pansements épouvantables, voilà. de briques alvéolées pour enfin, venir boucher.
Exactement. Donc là on est dans les contre-performances dont je parlais tout à l'heure. Alors il y a effectivement cette partie où il y a des besoins énormes. Et puis il y a une autre partie qui est la partie de la construction neuve, de la construction contemporaine. Alors il y a quelques architectes là aussi, comme je vous disais, qui s'impliquent là-dedans, mais on n'a pas encore toute une filière montée et surtout avec notamment les professionnels pour les réalisations. Alors les choses sont en train de s'améliorer. Vous êtes bien au courant du projet culturel du Pays Midi Quercy qui a pour but aussi de passer à un autre niveau d'une simple connaissance de ce matériau qu'on commence quand même à connaître. Encore une fois, c'est un matériau qui a un intérêt durable, comme on dit, donc pratiquement tous les aspects. Mis à part effectivement peut-être le transport et le poids du matériau, puisque c'est en général de la terre massive qu'on utilise. Je suis par ailleurs directeur aussi de l'espace info-énergie de Tarn-et-Garonne. Et il y a des études qui sont menées actuellement pour montrer les performances thermiques de ces matériaux. je pense que c'est des choses qui vont être amenées à se développer. Alors heureusement, il y a encore des pionniers, des autoconstructeurs et même sur le secteur qui se sont lancés, soit en utilisant directement de la terre, soit en l'associant avec de la paille, puisqu'on fait aussi des constructions paille et terre, puis sur d'autres systèmes. Le système du torchis, on peut très bien le réutiliser aujourd'hui. Alors il y a quelques spécialistes qui le font aussi, mais enfin, encore une fois, ça ne demande qu'à se développer, et il y a un potentiel énorme. Je pense que les évolutions sociétales et économiques feront que c'est un matériau qui va revenir sur le.
Pour vous, ça fait pas de doute, ça. C'est une technique d'avenir, alors que on ferme la parenthèse finalement de l'aberration de la circulation des parpaings.
Et oui, de toute façon, au moment où on fait des bilans carbone de tous les matériaux et de tous nos gestes maintenant, il est évident que c'est un matériau qui représente un intérêt évident.
Et donc, on va voir demain peut-être commencer les choses à l'envers, c'est-à-dire on va voir creuser une piscine avant de construire la maison pour avoir le matériau pour faire les murs.
C'est un très bon lien effectivement avec avec l'avenir.
Philippe Thieu, je vous remercie. Un mot ajouté.
De toute façon on participe au soutien du projet culturel du Pays Médicercy, donc on va continuer dans ce sens. Et puis je rappelle que les particuliers peuvent nous consulter. Nous sommes installés à l'hôtel du département. On y trouve également l'espace Info Énergie, donc on peut avoir aussi des informations sur la maîtrise de l'énergie. Et voilà, donc on peut nous consulter au 05 63 03 80 88.
C'est le CAE, Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Philippe Thieu était dans notre émission Pays Médicercy Mater. À la semaine prochaine.
Merci, au revoir.